Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. Campus Bordeaux.
88,1.
Campus Bordeaux.
Campus Bordeaux. 88,1.
Il est 12h38 et à présent, je vous propose de retrouver une série de témoignages et de reportages réalisés par Mathieu le week-end dernier. C'était samedi où il y a eu une manifestation à la ville de Bordeaux, une manifestation où les luttes ont convergé puisque vous pourrez retrouver différents témoignages. On va commencer par un premier témoignage du mouvement Youth for Climate, suivi d'un sujet sur Tchernobyl. Ensuite, on parlera d'une contre-loi que Darmanin proposait avec des contre-propositions et des mécontentements. Et on terminera par l'état généraux des migrations. Et oui, tout ça en un reportage, il est fort ce Mathieu. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver le mouvement Youth for Climate au micro de Radio Campus.
Ce samedi 4 mars, Youth for Climate a fait un appel inter-organisation. Ce sont donc une trentaine d'organisations, dont Greenpeace, Tchernobyl, Extinction Rebellion, ainsi que toutes les organisations de protection des migrants qui sont en lutte contre la loi Darmanin, qui ont répondu à l'appel. En effet, l'originalité de cette manifestation est de lier la protestation pour la défense des droits des migrants et celle pour les droits sociaux avec la question climatique. Au centre de la revendication, le constat que les populations pauvres et les migrants internationaux sont les premières victimes des dérèglements climatiques. En ligne de mire, le gouvernement et les grandes fortunes pollueuses. Une proposition, la remise en place de l'ISF, qui pourrait être attribuée au soutien des protocoles de transition énergétique.
Youth for Climate est partout en France, il y a plusieurs antennes dans chaque ville, dont une à Bordeaux. Et c'est un mouvement, pas une association, un mouvement qui regroupe des jeunes, des moins jeunes, pour lutter pour le vivant.
Alors quelle est votre position? C'est vous qui avez appelé cette manifestation aujourd'hui?
Oui, on est à l'initiative de cette manifestation qu'on a souhaité organiser pour demander l'arrêt des investissements des banques, des plus riches et avec leurs investissements pour les énergies fossiles, contre l'extraction des hydrocarbures en Antarctique, etc. On veut une remise en question des modes de vie des plus riches. On veut qu'ils arrêtent d'investir parce que 1% des plus riches émettent 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et donc 70% de leurs émissions de gaz à effet de serre sont dues à leurs investissements pour des projets d'extraction d'énergie fossile. Donc on demande cet arrêt.
Vous êtes dans la promotion d'une mesure concrète, en fait, d'une mesure sociale.
Exactement. On veut que, enfin, le gouvernement qui a le pouvoir, ainsi que les personnes qui ont le plus d'argent, décide d'agir pour le vivant et qu'ils comprennent que c'est pour l'intérêt de tous, parce que là, nous sommes dans une pente désastreuse et nous demandons à ce qu'ils traduisent en actes leurs mots.
Pourquoi une manifestation inter-organisation?
En fait, Youth for Climate promeut des idées, demande certaines choses et qui sont aussi communes à d'autres organisations, à d'autres associations. Nous portons les mêmes valeurs, nous axons sous des angles différents, mais tous voulons le même objectif, pouvoir survivre dans un monde viable et vivable. Et le problème avec le mouvement écologiste, c'est que justement, nous avons du mal à nous organiser, nous avons du mal à rassembler les gens, et c'est pour ça que le mouvement ne part pas aussi loin qu'un mouvement de droite ou de gauche. Notre objectif, c'est ici d'organiser et de rassembler tous les mouvements pour enfin être organisés et pouvoir aller plus loin dans nos actes.
Les mouvements écologistes ont de nombreuses fois prouvé leur force de mobilisation.
Oui, c'est une bonne avancée. Il y a plein d'autres actions qui sont faites. Mais si on veut aller encore plus loin, au final, les mesures, elles ne sont pas vraiment prises, même après certaines manifestations. Et selon Bruno Latour, en tout cas, qui a écrit le mémo pour la lutte de la classe écologique, je n'ai plus le titre exact, il en parlait que nous ne sommes pas assez organisés. Repris aussi par Cyril Dion.
Et alors, une dernière chose, ça concerne la question, le lien entre les questions sociales et les questions environnementales. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que tu veux t'exprimer à ce sujet?
Oui. L'écologie, l'environnement est très lié au social, tout simplement parce que nous ne pouvons pas faire avancer des mesures écologistes tant qu'il y a des inégalités sociales aussi démarquées et tant qu'il y en a tout court. Il y a des gens qui vivent déjà dans une sobriété qui est subie, les personnes qui vivent déjà dans des milieux très précaires. En fait, le problème, c'est que le pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses, appartient aux mêmes personnes, celles qui ont le plus d'argent. Et ces personnes-là ne vont pas changer les choses parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Donc le problème, c'est pouvoir redistribuer ce pouvoir, redonner la parole au peuple, repolitiser le problème climatique qui est totalement invisibilisé. Cela passe par le combat des inégalités sociales.
Pour le lien entre justice sociale et écologique, il y a tout simplement le rapport du GIEC qui en parle, qui met en avant le fait que ces deux dimensions sont inséparables. Les impacts écologiques sont reliés au statut économique des pays qui pourront plus ou moins absorber des catastrophes, etc. Et les pays du Sud sont évidemment plus touchés. Mais voilà, c'est évident que sur tous les aspects sociaux, même pour les pays, au sein des pays riches, des disparités de revenus, de salaires. Les équipements changent et donc les défenses face aux sécheresses, etc., dépendent beaucoup des relations économiques.
Et tout de suite, pour la suite de ce reportage, on écoute à présent Greenpeace qui, eux aussi, étaient mobilisés lors de cette manifestation.
Honnêtement, je trouve que les gens sont de plus en plus sensibilisés sur la problématique, que la population est de plus en plus sensible au changement climatique, notamment parce qu'ils en subissent de plus en plus les conséquences. Sous nous, en Gironde, on a été extrêmement touchés par les incendies l'année dernière. On sait que ce type d'événements climatiques extrêmes vont être de plus en plus fréquents à cause du changement climatique. Donc je pense que les gens ont conscience de l'urgence climatique. Alors moi, je suis là pour Greenpeace, donc on a répondu à l'appel de Youth for Climate, qui sont les organisateurs de cette marche.
Quelle est la position de Greenpeace ?
Greenpeace, du coup, dit qu'il est temps d'arrêter de parler et de faire place aux actes. En fait, on lutte contre l'inaction climatique actuelle au niveau du gouvernement, des grosses entreprises. Il faut un réel changement et de réelles actions concrètes pour le climat. Mais la marche aujourd'hui, elle est aussi pour la justice sociale. Parce que voilà, justice sociale et climatique, les deux thématiques sont extrêmement liées. On sait que les personnes les plus précaires, par exemple, sont celles qui subissent le plus les conséquences du changement climatique. Alors nous, au niveau du climat, on fait évidemment énormément de sensibilisation. On va notamment informer sur les derniers rapports du GIEC. Notamment, il y avait un des rapports qui expliquait qu'il y avait des solutions qui étaient possibles. On milite aussi pour le retour d'un... un ISF climatique, en fait, donc de taxer le capital des personnes les plus riches pour financer la transition écologique.
Donc un retour à l'impôt sur les grandes fortunes.
Mais pour financer la transition écologique, du coup taxer le patrimoine des plus polluants.
Parce que, en fait, c'est les personnes les plus riches qui sont les plus polluantes.
Oui, c'est ça, et également leur capital aussi, qui est... Alors, du coup, le capital, en fait, donc il y a eu un rapport commun de Greenpeace et Oxfam qui est sorti, qui disait que les 63 plus grosses fortunes françaises, en fait, polluaient plus que quasiment 50% de la population française.
Quel est ton sentiment, toi, par rapport à l'avenir ?
Il est sceptique, parce que si on continue à ne rien faire et à pas avoir de changements majeurs, ça risque de devenir très compliqué au niveau des ressources naturelles.
Donc tu milites à Greenpeace ? Depuis quand ?
Depuis septembre, depuis que je suis arrivée à Bordeaux.
Qu'est-ce qui t'a poussé à cet engagement ?
Agir et faire des actions concrètes pour prévenir et alerter sur le changement climatique.
Et tout de suite, on écoute la mobilisation qui était contre la dernière loi proposée par Darmanin.
Alors vous êtes là pour quoi aujourd'hui ?
Alors nous sommes là dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation contre la loi Darmanin, la loi qui prévoit de renforcer la législation répressive contre les migrants, contre les personnes étrangères. Et donc on est là pour ça. Mais nous avons discuté avec Youth for Climate dans la mesure où on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de nos préoccupations qui rejoignent les leurs. Entre autres, la question climatique, puisque nous savons très bien que déjà et amplifié dans les années à venir, la question climatique va mettre sur les routes migratoires des centaines de millions de personnes. Voilà.
Je pense que vous ne trompez pas avec le zéro. Effectivement, on est sur les millions.
Je calculais.
Il faut que vous me disiez quel est le nom de votre organisation.
Alors en fait, bon, moi je suis le réseau Éducation sans frontières, mais là, c'est je parle au nom de l'interassociation États généraux des migrations, qui regroupe une trentaine d'associations et syndicats qui se battent pour un accueil large, digne et la régularisation. Et au sein de ce collectif Interasso, il y a une petite spécificité qui est en force, mais je veux dire une des spécificités.
Une grande spécificité.
Non, je veux dire, il y a plusieurs revendications. Et entre autres, dans nos revendications, il y a la lutte contre l'enfermement des étrangers. Et il s'avère qu'en Gironde, il y a la construction d'un nouveau centre de rétention administrative. Et il y a pour ça un collectif anti-CRA très actif. Et vous avez là son représentant.
Alors, d'abord, on est un collectif. Hein, et donc, ce collectif, au départ, s'est constitué contre le projet d'un CRA à Pessac, d'un centre de rétention administrative, un des plus gros de France, avec 140 places, et qui pourra accueillir, et qui pourrait accueillir, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais qui pourrait accueillir des hommes, des femmes et des enfants enfermés. Ce n'est pas une prison. C'est pas une prison parce que c'est géré par le ministère de l'Intérieur et pas par le ministère de la Justice, mais quelque part c'est quand même une prison.
C'est un milieu carcéral.
Oui, c'est un milieu d'enfermement. Les gens n'ont pas le droit de sortir, ils sont enfermés là, jusqu'à ce qu'ils soient jugés et très souvent en renvoyés par avion dans un autre pays. Voilà. Le projet de CRA à Pessac a été déporté, entre guillemets, excusez-moi du terme, vers Mérignac, sous l'influence du maire de Pessac et du maire de Mérignac, qui sont mis d'accord pour que ce projet ne voit pas le jour à Pessac du fait de la nuisance qu'il peut y avoir vis-à-vis des voisins du quartier.
D'accord. En fait, il n'est pas du tout question qu'il soit là et il a été placé dans un endroit plus discret.
Tout à fait, bien, bien discret, puisque on est sur le projet maintenant s'oriente sur le bioparc. Le bioparc, ce sera une zone qui sera coincée entre la rocade et l'incinérateur et le cimetière. Donc c'est vrai que les voisins seront nettement moins dérangés.
Vous êtes en contact avec la CIMAD ?
Bien sûr, la CIMAD fait partie aussi de notre collectif, la CIMAD, Médecins du Monde. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Solex Pessac, qui veut dire solidarité avec les exilés à Pessac. On est vraiment très nombreux dans ce collectif. Donc, je vous disais, la CIMAD, Médecins du Monde, l'UCL, la CGT, la FSU, et j'oublie encore du monde, je suis désolé.
Des droits de l'homme, dans la manière dont sont traitées les personnes en centre de rétention administrative.
Alors, la Cour européenne de justice a déjà condamné à plusieurs reprises l'État français, ne serait-ce que par l'enfermement des enfants. Qui sont donc enfermés. Donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à ce système-là, qui ne sert absolument à rien, parce que la plupart du temps, les personnes sont enfermées là pendant un certain temps. Mais il faut savoir aussi qu'elles ne peuvent pas être envoyées dans leur pays d'origine si les autorités du pays en question ne les acceptent pas. Donc ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, d'un certain délai, elles sont relâchées, elles sont remises dans la nature, entre guillemets, pour être re-enfermées un peu plus tard. Enfin, c'est un cercle infernal qui est complètement stupide et qui coûte très très cher à l'État.
Et qui ne permet pas finalement aux trajectoires d'évoluer dans aucune direction. Finalement, on reste dans l'enfermement.
On reste dans l'enfermement, on reste dans un système qui, comme je disais, coûte très cher à l'État, que ce soit d'un point de vue enfermement, d'un point de vue contrôle aux frontières, et ça coûterait nettement moins cher plutôt que de repenser une politique d'intégration de toutes ces personnes-là, qui de toute façon, elles feront tout ce qu'elles peuvent pour sauver leur vie, quitte à aller à la perdre en traversant la Méditerranée ou d'autres mers.
Alors on va parler fric maintenant. Combien ça coûte un centre de rétention administrative? Est-ce que vous avez une réprobation sur ce point?
Alors je crois que ça coûte plusieurs millions d'euros, et en particulier plus de 20 millions d'euros en termes de construction.
20 millions?
Oui, un peu plus de 20 millions d'euros, je veux pas dire de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là.
Par exemple sur le site gouvernemental, on pourrait trouver ces chiffres.
On peut vous envoyer toutes les informations directement par mail, vous nous donnez l'information et on pourra vous l'envoyer. C'est compliqué parce qu'en fait les appels d'offres sont faits d'un point de vue officiel, mais en même temps nous on a eu un mal fou à les récupérer pour Pessac, on avait fini par les récupérer de manière un petit peu complexe et on les avait diffusés comme ça aussi auprès des élus de l'opposition de Pessac qui se sont donc emparés de l'affaire et qui ont dévoilé ça en conseil municipal il y a quelques temps, il y a un an à peu près.
Vous pensez qu'il y a eu des problèmes sur l'appel d'offres?
Si, en fait l'appel d'offres il a bien fonctionné, mais sachez que pour Pessac en tout cas, il n'a pas été positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez d'entreprises qui ont répondu à cet appel d'offres. Alors on attend de voir un petit peu comment ça va se passer pour Mérignac. On aura aussi dans le collimateur les entreprises qui fonctionnent dans ce système-là d'enfermement des êtres humains. On les aura dans le collimateur aussi.
Et tout de suite, on termine ce reportage réalisé par Mathieu dans le cadre de la manifestation. C'était samedi dernier. Et tout de suite, on parle de Tchernobyl.
On y va. Il faut que vous présentiez d'abord.
Alors, Mimosa de Tchernobyl. Alors, il n'y a pas qu'à Blaye, hein. C'est dans le monde entier qu'on ne veut pas du nucléaire, hein, que ce soit clair. Mais on est près d'une centrale où il y a 4 réacteurs qui sont là, ils approchent les 40 ans. Ils ont les visites décennales pour être prolongées pour 50 ans. Alors que normalement, les centrales devaient s'arrêter au bout de 20 ans. Ensuite, ça a été 30 ans. Maintenant, c'est 40 ans. Et maintenant, ça va être 50. Ce sont des vieux réacteurs qui ont les problèmes de vieux réacteurs avec des malfaçons, avec des soudures qui ne sont pas terribles sur un générateur de vapeur. Cette centrale a été inondée pendant la tempête Martin. L'eau est rentrée dans la centrale.
C'était en quelle année ?
En 1999, le 27 décembre. Et on a frisé la catastrophe, la même que Fukushima quelques années avant.
Est-ce que vous avez eu des problèmes récemment, des problèmes de température de l'eau, par exemple en été, est-ce qu'il y a des problèmes en été ? Dans les rejets de d'eau de la centrale dans la Garonne ?
Alors oui, il y a des dérogations tous les ans maintenant. On rejette de l'eau qui est trop chaude.
Les dérogations, vous pouvez nous expliquer ?
Les dérogations, c'est que normalement, il y a un taux de température qui est admise. Et d'ailleurs, ce taux-là, on peut déjà le critiquer. Mais en plus, là, tous les étés, là, actuellement, et ça va continuer, il y a des dérogations qui sont exceptionnelles, mais en fait, qui se passent tous les ans, parce qu'ils sont obligés de rejeter de l'eau qui est beaucoup plus chaude que la limite permise.
Alors, quelle est la limite permise ?
Alors là, les chiffres, je ne sais pas.
Est-ce que vous avez les notions des conséquences sur l'écosystème de rejeter de l'eau chaude ? Je pense que ce n'est pas évident pour la plupart des gens, pour moi ça l'est, mais évidemment, les créatures marines peuvent pas bouillir, en fait, elles peuvent pas être, on ne peut pas leur changer leur température de 10 ou 20 degrés brutalement, c'est comme si nous, brutalement, ils se mettaient à faire 40 ou 50 degrés dans notre atmosphère.
Mais déjà, tu as répondu à la question, c'est bien. Mais il n'y a pas que le problème du réchauffement des eaux qui sont rejetées. Les eaux rejetées contiennent aussi des matières radioactives, du tritium et tout ça, quoi. Ah ben oui, bien sûr. Et en plus, la problématique de l'eau dans la centrale, c'est qu'il faut de l'eau, en même temps de l'eau qui est douce, pour refroidir le circuit primaire. Et ils pompent de l'eau de l'estuaire pour le rejeter plus chaude, pour le circuit secondaire de refroidissement, voilà. Et là, ça veut dire que la centrale a besoin d'énormément d'eau douce. L'eau douce, elle est pompée sur l'Isle. Et ça, c'est
sur l'Isle, c'est-à-dire
l'Isle, la rivière de l'Isle qui se jette dans la Dordogne. Et qui donc, voilà. Et cette eau-là, du coup, ne sert pas à l'irrigation ou à autre chose. Elle sert juste à refroidir un réacteur et à le rejeter. Et il faut savoir aussi que la centrale, du coup, comme elle est obligée d'avoir de l'eau pour refroidir les réacteurs, elle pompe aussi sur les nappes phréatiques. Et les nappes phréatiques, c'est de l'eau qui devrait rester pour nous en cas, parce que si nous, on n'a plus d'eau pour boire, c'est pour nous, cette eau-là, l'eau des nappes phréatiques. Donc il y a plein de problèmes. Et en plus, là, actuellement, la région Rousset, la région et aussi la métropole et la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie et les élus du Blayais demandent à tout prix à être inscrits sur la liste des futurs EPR. Ça veut dire qu'il est possible que si le site du Blayais est accepté, on ait deux EPR en construction dans un marais et avec la montée des eaux dans une onde déjà inondable et qui a déjà été inondée.
Ça, c'est une demande qui a été faite par l'équipe du conseil régional actuellement en place.
Oui, il y a un comité de suivi et ils ont déposé un dossier pour demander, alors qu'ils n'étaient pas sur la liste, pour demander que les prochains EPR, s'ils arrivent à en faire 6, les prochains EPR, on soit sur la liste et qu'à Blaye, on se retrouve avec deux EPR. Les EPR nouvelle génération, ils ne savent même pas en construire un à Flamanville, il n'a même pas réussi à ouvrir. Et ils ne savent même pas comment vraiment les finir. Mais on demande tout ça pour continuer à gagner de l'argent. Et nos vies valent plus que l'argent récolté par le fait d'avoir des centrales nucléaires dans notre région.
C'est qui la CEPENSO ?
La CEPENSO, c'est une autre association qui gère, c'est la préservation de la biodiversité sur les zones dans le sud-ouest.
Ils sont venus aujourd'hui ? Vous êtes en contact avec eux ?
On est en contact avec eux, ils font partie de la CLIN. Oui, on est en contact avec
la CLIN,
bien sûr. La CLIN, c'est le comité de liaison et d'information sur le nucléaire.
Est-ce que vous avez des actions en justice qui sont en cours ?
Nous, non. Nous, on est une association où on demande l'arrêt du nucléaire et on ne demande pas l'amélioration du nucléaire. et on est une rejoignez Tchernoblaï, on a besoin de tout le monde. Il y a un site Tchernoblaï, on a besoin de tout le monde pour dire qu'il ne faut pas de nucléaire ni ici ni ailleurs. Alors le nucléaire civil, en fait, il faut être contre, parce que derrière le nucléaire civil, c'est la bombe atomique. En fait, on ne devrait pas dire nucléaire, c'est un mot qui fait moins peur, mais ce sont nos centrales nucléaires, ce sont des centrales atomiques. Et grâce à cette fission, en fait, l'uranium se transforme et crée le plutonium qui n'existait pas du tout dans la nature. Et grâce au plutonium, on fait des bombes encore plus mortelles que la première bombe A, qui était une bombe uniquement à l'uranium. Et il faut savoir aussi que les bombes, c'est une arme qui ne sert pas pour détruire une armée, c'est complètement con, mais de détruire une population civile de masse. C'est de la destruction de masse. Alors, la France n'est absolument pas indépendante au niveau de son énergie nucléaire, puisqu'on a besoin de mines d'uranium et qu'on n'a pas de mines d'uranium en France. Donc on est très dépendante, la souveraineté énergétique grâce au nucléaire, c'est du pipeau. Et il y a la problématique des déchets, parce que les centrales produisent des déchets, énormément de déchets. De tous ces déchets, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que personne n'a la solution pour gérer des déchets. Alors il y a un grand projet à Bure, où on enfonce, le projet c'est d'enfoncer dans des couches très profondes, bloquées, qu'on ne pourra plus ressortir s'il y a un problème. Des déchets nucléaires pour les 200 000 ans. Et ça, on les laisse pour les générations futures. Enfin, c'est un risque absolument incroyable. Et on dit que non, il n'y a aucun risque sur le nucléaire. Enfin, on ne peut pas gommer tous les risques liés à une catastrophe humaine, une catastrophe industrielle et la gestion des déchets. Et les centrales en bout de course, on ne sait pas comment faire pour les démanteler. Et ça va coûter une fortune. Et que je sache, il y a l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Après, l'éolien a des défauts, le photovoltaïque a des défauts, la géothermie a des défauts. Mais elles n'ont jamais tué personne, elles n'ont jamais tué personne de masse.
Et on termine ce tour de prise de parole dans le cadre de la manifestation par l'État général des migrations en Gironde.
Donc je représente ici les états généraux des migrations de la Gironde, qui est un collectif qui représente une trentaine d'associations et d'ONG. Je vais vous en citer quelques-unes, je ne vais pas être exhaustive. Il y a la CIMAD, par exemple, Médecins du Monde, la Ligue des Droits de l'Homme, Réseau Éducation Sans Frontières, Solex, ATTAC, Bienvenue, enfin tous bien connus par vous, je pense. Et je représente aussi le collectif Anticra, qui est co-organisateur. Le collectif Anticra se bat contre un projet de centre de rétention à venir sur Mérignac, comme d'autres centres de rétention à venir en France. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce que nos combats convergent et nos marches aussi. Pourquoi? Alors que l'Occident, avec son mode de vie, a une dette climatique, alors que l'Europe, forteresse, tue chaque année, ce sont des milliers de morts en mer, alors que nous poursuivons des pratiques néocoloniales, le projet de loi Darmanin institue des titres de séjour très précaires, va restreindre encore plus le droit d'asile, va favoriser l'enfermement et les expulsions. Ce qui est important à nos yeux, c'est que ce projet s'inscrit dans la logique d'ensemble de notre modèle économique prédateur. Là, tous les mots sont pesés. Donc, dans la logique d'ensemble de notre modèle économique prédateur qui prend, fabrique et jette, qui dévaste et détruit la planète. Nous soutenons une politique d'accueil digne, c'est un minimum. Et surtout, stop au cynisme.
Radio Campus Bordeaux 88.1.
C'est à présent la fin de ce reportage réalisé par Mathieu. Un grand merci à Mathieu.